13h-14h, Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. J'ai une heure pour vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Gros plan aujourd'hui sur les séries françaises. Et vous allez voir qu'en 20 ans, elles sont de plus en plus nombreuses et qu'on s'arrache désormais ceux qui les fabriquent. Elle travaille depuis 8 ans à la fin de vie du plastique. Carbios est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis ne pas saturer les urgences, trouver le bon hôpital, c'est l'idée d'une start-up du Gard. Focus Santé a inventé une appli, Urgence Chrono, c'est son nom. Et c'est aussi la solution, c'est ça la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Eh oui, fini, hein. Starsky et Hutch ou Dallas. Aujourd'hui, ce sont effectivement les séries françaises qui nous passionnent grâce au travail de nos invités. Pour les accueillir à mes côtés, Elisabeth Assayagela, bonjour.
Salut Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach aujourd'hui, c'est Sylvain Lambert, associé chez PwC. Bonjour Sylvain.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Le festival Série Mania bat son plein en ce moment. Ça se passe à Lille, bien sûr, l'occasion de découvrir les séries de demain, celles que vous verrez sur vos écrans. 450 sont présentées et nous sommes devenus de gros consommateurs de ce type de produits et de gros créateurs aussi.
On est vraiment bien sans elle.
Eh oui, vous avez reconnu le générique de Plus belle la vie. Bonjour Sébastien Charvy.
Bonjour Raphaël, bonjour
merci
à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes depuis 2017 le producteur de Plus belle la vie, série quotidienne qui bat des records d'audience hein, sur France 3 et qui a une particularité, elle est quotidienne et surtout elle suit l'actualité. C'est presque une première non, dans le monde des séries de fonctionner comme ça.
Une première, je ne sais pas. En tout cas, c'est assez inédit de réussir à le renouveler parce qu'être en phase avec l'air du temps, c'est une belle promesse. Et comme toutes les belles promesses, c'est ce qui est le plus dur à tenir. Donc voilà, on essaye tous les ans de se remettre en phase avec une société qui bouge et qui, en ce moment, bouge encore de plus en plus vite.
Ouais, vous avez travaillé, je crois, pendant 2 ans avant de reprendre les commandes avec Hubert Besson, qui était le producteur originel. Il est parti ensuite monter un projet un petit peu similaire avec Demain nous appartient. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau des séries françaises et de ce côté effectivement assez immédiat hein, dans la façon de filmer.
Oui, parce que dans les séries, il y a plusieurs choses. On verra avec les autres invités que vous avez. Nous, et sur les feuilletons quotidiens, la promesse, elle est essentiellement là. C'est une forme de proximité. Et puis, de mélanger à la fois des rebondissements un peu incroyables avec le quotidien des gens et avec un ancrage sociétal, particulièrement sur Plus belle la vie, qui doit poser des questions. Donc, c'est vrai que régulièrement, on a des sujets légers, des sujets moins légers, des sujets lourds qu'on essaye de traiter de manière légère.
Vous dites on ressemble à la France aujourd'hui. Vous travaillez justement avec des associations sur des causes. Je pense avec les associations LGBT par exemple, avec les associations écolo. C'est important d'être ancré dans la réalité.
C'est nécessaire. Aujourd'hui, on nous pardonne assez peu quand on raconte des choses qui sont fausses. Dès qu'on a une approximation, même en termes de dialogue, sur le sujet du transgenre qu'on a abordé l'année dernière, les gens sont vite choqués, à juste titre là-dessus. Il y a une exigence qu'ils attendent, enfin qu'ils nous demandent et qu'on est ravis de relever, quoi.
Elisabeth, comment on se situe justement, nous Français, dans ce fameux marché des séries?
Ça va plutôt pas mal. Hein. Déjà, on l'a vu, hein, il y a ce festival Série Mania qui a lieu à Lille. Il y a Cannes Série à partir du 5 avril. Donc, c'est bien la preuve qu'il se passe quelque chose autour du phénomène hein, de la série. Alors, on le sait, Netflix, hein, on va le citer hein, tout de suite, hein, a une position dominante, mais il y a beaucoup de nouveaux entrants dans ce secteur. Il y a incontestablement un renouveau de créativité aux États-Unis, plus de 500 séries sont produites chaque année. Et les chaînes françaises, face à cela, eh bien, se sont rendues compte qu'il y avait une envie de la part des Américains de venir préempter des histoires un peu françaises, un peu européennes. Et donc la France a décidé qu'il était temps de se battre à armes égales. Et c'est ainsi que France Télévisions s'est alliée avec d'autres chaînes européennes pour avoir les moyens de rivaliser dans le bon sens. Vous avez aussi celle de Canal Plus Série.
Justement, vous, Sébastien, vous travaillez pour la société Tel France. Vous avez le sentiment qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, y compris au niveau national, hein, pour pousser les séries françaises.
Mais il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du public qui est content qu'il y ait des séries locales qui parlent de leur vie. Pendant des années, moi j'ai travaillé aux acquisitions, donc aux achats de séries étrangères. C'était super de voir la vie du rêve américain. Je pense que les gens ils sont contents d'avoir des héros qui leur ressemblent aussi.
Oui, et puis vous avez travaillé justement aux adaptations, mais c'était un moment clé aussi, parce que c'était l'époque où le replay est arrivé en France, et c'est là que les choses ont finalement commencé à changer.
Oui, et pas seulement, il y a une volonté, je pense, des chaînes de se dire, en fait, je ne sais pas si c'est le Made in France qui arrive des années après en télé, mais il y a, on est un peu sur la fin du French bashing sur nos séries, on découvre qu'on a des auteurs de talent, qu'on a des réalisateurs de talent, que en fait, quand la Suède est capable d'exporter, ou la Scandinavie est capable d'exporter des séries à travers le monde entier, bah c'est pas interdit d'y penser quand on est français.
Alors, que dit notre coach, Sylvain ?
Justement, vous m'enlevez presque les mots de la bouche, mais quels sont les grands pays des séries ? On parlait des États-Unis, on dit que la France est en train d'arriver, vous le dites, et aujourd'hui, c'est justement, d'autres pays sont très forts, et en particulier, comment bouge l'Asie sur ces questions ?
La Corée, aujourd'hui, si on fait rapidement un panorama, les Américains sont incontournables, les Anglais ont des années d'avance sur nous, la Scandinavie était très à la mode il y a 7-8 ans, Israël continue à exister, en Asie, c'est aujourd'hui la Corée, c'est incroyable, mais en Europe de l'Est, les feuilletons les plus consommés sont des feuilletons coréens. Allez m'expliquer quel est le pont qui se fait entre ces deux pays.
Ils racontent la vie des Coréens ou la vie en Europe de l'Est ?
Alors, je pense que des Coréens qui racontent la vie de l'Europe de l'Est, ça ressemblera à de la science-fiction. Ils se cantonnent à raconter
possible.
La vie des Coréens. Mais c'est des feuilletons qui sont... C'est très marrant, dans une période qui est assez dure. C'est très naïf. Ça ressemble à Emma Bovary, quoi. C'est de l'amour platonique. On se regarde, on se frôle les yeux. Et il y a ce romantisme suranné qui trouve son public, évidemment en Asie et dans d'autres territoires.
Oui, ça veut dire que tout ne peut pas être exporté, ou en tout cas pas en l'état. Justement, vous avez fait évoluer Plus belle la vie. Elle a beaucoup changé, évidemment, hein, depuis le début, parce qu'elle a plus de 10 ans. Qu'est-ce que vous avez fait, justement, vous, pour la modifier et pour la faire rester dans son époque ?
En fait, la série a même 15 ans, et un des pactes de la série, c'était pour France Télé de s'adresser à un public qui n'était pas le public traditionnel de France Télévisions. C'était une réponse à la télé-réalité Plus belle la vie. Donc le mandat, il était de parler aux jeunes. Ce qu'on sous-estime souvent sur Plus belle la vie, c'est qu'on parle aux jeunes. Aujourd'hui, la série, elle est piratée 300 à 350 000 fois chaque jour. Et c'est pas, même si ma maman la pirate, et je lui en veux beaucoup, mais ce n'est pas qu'elle qui pirate. Il y a des publics assez jeunes qui piratent ça. Et l'idée, c'est justement d'aller aborder des sujets particuliers. Alors le transgenre, c'est très facile d'intéresser un public jeune avec ça. Là, on a un sujet sur le handicap en ce moment et on a envie de le traiter pour que les jeunes générations se posent aussi ces questions-là. Voilà.
Vous tournez d'ailleurs, je crois, avec 3 équipes au lieu de 2 avant. Ça a changé les choses. Des nouveaux comédiens aussi qui sont entrés, nouveaux personnages.
Des nouveaux personnages, des nouvelles familles et encore une fois, des nouvelles manières de faire, une nouvelle musique. L'arrivée de la concurrence, je pense, est assez salutaire là-dessus. Ça veut dire qu'on se remet en question pour faire mieux, parce que nous, on livre 26 minutes tous les jours, là où les Américains livrent 26 minutes en plus de temps. Donc, on doit se challenger pour être à la hauteur.
Elisabeth, ce qu'on n'a pas dit, c'est que Plus belle la vie, c'est aussi générateur d'emplois.
Oui, hein, et bravo, hein, parce que chaque semaine, ce sont 120 à 200 salariés, des techniciens, mais aussi des comédiens qui travaillent pour la série. 500 techniciens intermittents collaborent régulièrement avec Plus belle la vie. Et il ne faut pas négliger que cela fait aussi travailler l'industrie hôtelière, hein, l'industrie, la restauration, les hôteliers de Marseille. On estime à 4000 nuits par an dans les hôtels des environs de Marseille.
On reste ensemble, on continue à parler séries françaises aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et pour qu'une série arrive sur nos écrans, il faut aussi quelqu'un pour l'écrire. C'est un métier, scénariste, et celui qui va nous rejoindre a notamment travaillé sur 10%. A tout de suite.
Accro aux séries, victime de binge-watching, comme on dit. Une chose est sûre, les séries ont la cote. Et dans La France bouge aujourd'hui, on s'intéresse aux séries françaises, bien sûr.
Les séries françaises ont, c'est vrai, le vent en poupe. Et l'une de celles que vous avez sûrement remarquées ces dernières années s'appelle 10%. Bonjour Benjamin Dupas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes avec Fanny Herrero, l'un des scénaristes de cette série qui a été diffusée sur France Télévisions. Fondateur aussi, c'est important de le signaler, d'un collectif de scénaristes, SAS. Racontez-moi comment vous, prof de lettres à la fac, vous vous mettez à écrire des séries pour la télé. C'est votre parcours.
C'est mon parcours.
Oui, ça commence comment ? Vous aviez envie absolument de travailler, d'écrire pour le cinéma au départ ?
Je me suis posé la question de gagner ma vie en écrivant. J'écrivais des pièces de théâtre, je les mettais en scène en même temps que ma vie de prof. J'avais un peu une jambe dans chaque métier. Et puis un jour, je me suis dit, si j'essayais de gagner ma vie en écrivant, et pas d'être obligé de faire la vie de tournée et d'être à la taverne de Maître Canter à Belfort où j'étais ce soir-là et je me disais c'est dur pour moi de vivre la vie de tournée. Est-ce que j'essaierais de me sédentariser? Et donc je suis allé voir dans le scénario parce qu'on m'avait dit que c'était peut-être possible de gagner sa vie en écrivant. Au début, il y avait quelque chose comme ça et puis là le virus, enfin ça m'a attrapé très vite, j'ai senti que c'était mon truc.
Et alors qu'est-ce qu'elles ont justement de particulier les séries quand on les écrit? On n'écrit pas une série comme on écrit un bouquin.
Non. Non. Vraiment pas. Il y a une partie commune, hein, il y a une partie d'artiste qui est forte,
ouais.
Mais il y a de l'artisanat, il y a de l'industrie. Donc il faut vraiment tout de suite se dire que c'est quelque chose d'un peu lourd. Si un budget d'un épisode c'est 1 million d'euros, ben, le scénario, on va dire, conditionne intégralement la mise en production. Et le mot production n'est pas du tout galvaudé. Hein. On produit quelque chose d'un peu lourd, d'un peu complexe, qui embauche beaucoup de gens. Où il y a beaucoup de savoir-faire et qui va être transmis. Hein. Les scénaristes ne sont pas du tout les signataires finaux de l'œuvre comme un peintre pourrait juste apposer sa signature au bas d'un tableau fini. Donc on doit prendre ça en compte. Donc il y a un mélange cerveau droit, cerveau gauche, il y a un mélange de beaucoup de choses.
Vous avez commencé en 2006, c'est
ouais,
ça,
c'est
à,
ça
peu
à peu près.
Et alors avant, c'est vrai qu'à la télévision, on avait plutôt un héros type Commissaire Navarro. Hein. Mm-hmm. Aujourd'hui, on voit arriver plusieurs héros dans une même série avec des histoires qui se croisent avec des intrigues différentes. Avant, il n'y en avait qu'une par épisode et les épisodes sont beaucoup plus courts. Ça veut dire que vous êtes obligé de travailler plus vite, d'écrire plus vite, d'avoir effectivement plusieurs cerveaux en même temps ?
Alors oui, mais alors quand on dit aujourd'hui, c'est encore autre chose. Là, vous me parlez de la mutation qui a eu lieu au moment où je suis arrivé et ma génération, Fanny, dont vous avez parlé, et les gens de notre collectif du SAS, entre autres. Hein. Et on a eu de la chance parce qu'on est arrivé à un moment où le jeu changeait et où il y avait besoin aussi de nouveaux auteurs. Et en même temps, il fallait s'adapter à cette forme américaine, chorale, plus rapide, plus dynamique, plus en phase avec la société. Et effectivement, on avait moins un héros central qui venait un peu régler la vie des gens en 1h30. Quelque chose de plus feuilletonnant, donc plus compliqué à écrire parce que chaque épisode impacte les suivants, l'histoire se continue, les trajectoires des personnages, leur psychologie sont plus complexes. Bon, ça c'était le changement de paradigme il y a 10-12 ans. Mm-hmm. Là maintenant on est dans un autre, hein. C'est comme si vous me parliez de Vélib de Jean-Claude Decaux et puis du nouveau Vélib maintenant.
Alors,
maintenant on est dans le nouveau Vélib, on est même dans les trottinettes.
Quelle est le nouveau, la nouvelle forme que ça prend aujourd'hui?
La nouvelle forme c'est que, comme vous le savez comme moi, aussi bien que moi, on ne regarde plus très souvent ou pas tous les séries à la télévision. Il est rare maintenant pour beaucoup d'entre nous qu'on s'assied sur notre canapé à 9h et qu'on prenne la télécommande et qu'on choisisse
c'est
un chiffre.
C'est le mode de consommation, hein, qui a changé.
Et donc les écrans et les acteurs, les plateformes, les diffuseurs, tout change. Et les acteurs traditionnels se réinventent aussi. Canal+ vient juste de lancer une nouvelle offre et on en est content, il va y avoir notre série, notre nouvelle série dessus, Vernon Subutex.
Elle sort bientôt, hein, au mois d'avril,
donc, voilà,
c'est ça, 8
ça,
avril.
Exactement, le 8 avril, merci de le dire, on en est très content. Ça veut dire que le jeu change énormément, les modes de consommation changent, le public change, et que là, si on ne veut pas se retrouver avec des trottinettes abandonnées sur le trottoir, il faut vraiment comprendre ce changement.
Comprendre ce changement et aussi travailler à plusieurs, je suppose, dans ce type d'exercice. Un scénario, c'est quoi? C'est des heures de travail en plusieurs étapes. Il y a quoi? Il y a une cinquantaine de pages pour un épisode, par exemple?
C'est ça. Un scénario, c'est des mois de travail. Et c'est vrai que c'est difficile. Les gens le savent peu. Dans un scénario, il n'y a pas seulement les dialogues, les mots échangés. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle les didascalies comme au théâtre, mais beaucoup plus qu'au théâtre. On décrit tout ce qui se passe. On décrit les décors, les actions de fond de plan, les intentions.
Avant.
Voilà, c'est très découpé. Néanmoins, un scénario n'est qu'une base, une sorte de moule pour toute la série. Et après, il y a énormément de créations qui arrivent aux étapes suivantes.
Ouais, ça veut dire que le dialogue, c'est la dernière étape finalement, presque?
Du scénario, oui. Ensuite, il y a tout le reste. Il y a la préparation, le décor, le jeu, tout ça.
Que dit notre coach?
Déjà, il dit que quand toute mon équipe a su que je venais une émission sur les séries, ils m'ont tous dit « il faut que tu poses plein de questions ». Non, mais il y en a une, qui en particulier mon associé Émilie, que je salue, qui, je suis très heureux de parler à un scénariste, il me dit « mais les séries aujourd'hui ont une énorme influence sur les gens, c'est extrêmement regardé. Est-ce que quand on écrit une série, on pense à l'influence positive ou éventuellement négative qu'on peut avoir et est-ce qu'on se met des limites en disant « si je montre ça et que je ne mets pas dans tel ou tel cadre, je peux générer des comportements de gens qui vont vouloir s'identifier ?»
Alors, ma réponse est tout à fait positive. Je pense que Il y a deux parties. Le fait de se lever le matin pour aller écrire des histoires qui peuvent être vues par 5 millions de personnes le soir de leur diffusion, et ensuite encore beaucoup d'autres. 10% est visible dans le monde entier sur Netflix. C'est incroyable les retours qu'on a. Donc c'est quelque chose qui est effectivement un boost parce qu'on a l'impression de transmettre. Donc voilà. Alors après, avec ça vient la responsabilité et en même temps les choix. Sur 10%, en saison 3, on a un moment face caméra, un discours pour l'homoparentalité. C'est quelque chose qu'on revendique. On est fiers de l'avoir amené via des personnages qui avaient des rapports parfois mitigés à cette question, c'est-à-dire on essaie de ne pas être manichéen, mais on parle de choses auxquelles on croit et on essaie de les transmettre et on attend les retours.
Aujourd'hui, vous écrivez pour Netflix. Ça change quoi, justement, d'écrire pour Netflix, pour une boîte qui, manifestement, change aussi un peu le regard des gens sur la série?
Bah, il y a aussi une mise à niveau à faire.
Chercher le mot pour Netflix, parce que c'est un géant un peu à part. Donc.
Oui. On ne sait pas le chiffre d'abonnés, mais il y a déjà plus de 150 millions d'abonnements, c'est-à-dire combien de personnes. Enfin, c'est évidemment immense. Donc, il y a encore une fois ce boost de se dire que les frontières tombent. Et en même temps, un peu de friction culturelle et d'apprentissage chacun. Mais justement, Netflix France cherche à comprendre comment ça se passe aussi chez nous. Nous, on apprend comment ils travaillent, on trouve des nouveaux modèles. Donc voilà, c'est encore... Encore une fois, voilà, tout n'est pas évident. Les nouveaux Vélib n'ont pas forcément marché au jour 1. Moi, j'en suis content à l'heure actuelle. Je prends les nouveaux Vélib et je trouve qu'ils sont bien. On est capable de le faire et c'est ce qui se passe.
On reste ensemble. On continue à parler séries françaises aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h20.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on le disait, toucher un public jeune, c'est aussi écrire, mais pour le web, une autre manière de donner à voir. C'est ce que fait notre prochaine invitée avec la série Rando.
Jusqu'à 14h, vous écoutez La France Bouge sur Europe 1. On s'intéresse aux séries françaises aujourd'hui avec vous, Raphaël Duchemin. L'occasion de rappeler que le prochain festival Sériemania se déroulera toujours à Lille du 20 au 28 mars 2020, Raphaël.
Et vous savez que les plus jeunes d'entre nous consomment des séries sur le web, notamment un autre canal, mais qui plaît de plus en plus avec d'autres codes. Est-ce que vous entendez, c'est le générique de la web-série Random. Bonjour Rémi Noël.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Le co-réalisateur, co-créateur de cette série est là aussi, mais il est de l'autre côté, c'est Sullivan Lecorvic. Racontez-moi, vous avez toujours voulu tous les deux travailler dans le cinéma depuis que vous êtes petit?
Ouais, moi, dans mon cas précis, depuis à peu près que j'ai 3 ans, l'anecdote, c'est que je m'étais fait copain avec le magnétoscope et je lui donnais à manger. Donc, non, j'ai toujours voulu faire des films, travailler dans ce métier-là. Un des premiers métiers que j'ai voulu faire, c'était technicien pyrotechnique. Et ensuite, j'ai découvert la technique image, ensuite le scénario, etc. Sullivan, je sais qu'il s'y est mis très tôt. Je connais pas l'événement fondateur qui l'a lancé là-dedans.
Mais on va me le souffler dans le casque.
C'est bien probable. Lui, c'était les séries principalement, très jeune.
Vous avez eu plusieurs expériences aux États-Unis, notamment, je crois.
Oui, tout à fait. Ouais.
On me dit que pour Sullivan, c'est X-Files, manifestement, qui a été un gros déclic.
Je pensais que ça faisait même d'avant, en fait.
Alors, les États-Unis, qu'est-ce qui se passe?
En fait, je pars un peu sur un coup de tête, déception sentimentale, je quitte la France et je rencontre des gens par un hasard absolument énorme qui sortent de Columbia College, qui est une énorme formation cinéma aux États-Unis. Et je sympathise avec eux et on part sur des tournages et on tourne tout un tas de pubs, de courts-métrages, on participe même à des longs-métrages. Enfin, c'était assez exceptionnel comme expérience.
Et alors, à quel moment vous vous dites « je vais vers le web » ?
Ça s'est fait par hasard. Ah. Ça a été un énorme hasard. En fait, avec Sullivan, quand on s'est lancé dans l'idée de faire Random, on s'est dit, il faut qu'on le fasse maintenant, sinon on va s'essouffler. On aurait pu suivre une voie classique et qu'on essaye de suivre là à partir de maintenant. Mais on s'est avant tout dit, faisons pour faire, trouvons une audience, montrons notre travail. Et le web était la possibilité de diffusion la plus directe et la plus simple.
Et comment vous faites pour écrire cette web-série? Ce sont des codes différents qu'une série, finalement, projetée sur le petit écran?
Alors, effectivement, les codes sont assez différents. Mais nous, concrètement, l'approche qu'on a eue, c'était faire un format court. Et il s'avère que le web aime les formats courts. On parlait tout à l'heure de nouvelles plateformes de diffusion, notamment la consommation sur les smartphones, qui se fait énormément pendant les transports en commun. Oui. Donc, on a des créneaux qui sont entre 6 et 12 minutes à peu près, ce qui sont donc la durée de nos épisodes. On a découvert ça par la suite, nous, bien entendu. Mais nous, on voulait faire des épisodes relativement courts, donc avec des twists récurrents, donc des retournements de situation récurrents, etc., pour accrocher l'audience. Et on a écrit naturellement dans ce rythme-là qui s'avère correspondre à celui de la web-série.
Et alors, vous n'avez pas voulu attendre d'avoir des financements, hein. Vous êtes lancé, vous avez fait un appel de crowdfunding, ça a fonctionné, et vous avez été repéré quand vous lancez votre premier épisode par un spécialiste de la web-série en France.
Tout à fait, même en francophonie, Joël Bassager, qui est le spécialiste francophone de la web-série, qui voit un teaser qu'on avait fait. On avait fait un travelling arrière sur une porte qui se fermait avec une musique, une ambiance.
1 700 000 vues, c'est ça pour le premier épisode ?
Alors, non, 1 700 000 vues, c'est quand on a été diffusé sur MyTF1.
Ah d'accord.
MyTF1, on a cumulé beaucoup de vues. Ça, c'était, on avait 4 épisodes en ligne, on était en festival, on a gagné un prix avec un distributeur qui nous a eu un deal avec MyTF1. Et on a cartonné, on s'est retrouvé à être mis sur le devant de l'affiche. Quand les gens allaient sur MyTF1 avec leur boîtier TNT, c'était le random qui était partout sur les affichages. Enfin, c'était assez, assez grisant comme expérience.
Et c'est ce qui vous permet justement de lancer la saison 2 du
Exactement.
Coup. Et il y a une société de prod qui vient vous aider.
Qui nous a sauvé la vie, ouais.
Bénévolement.
Gengis Khan, ils se sont investis, ils ont aimé le projet, ils ont dit on vous suit. Ils nous ont rien demandé. Ils savaient que économiquement c'était très compliqué. On est né dans un modèle économique qui est tout à fait bancal et ils ont vu ce qu'on faisait, ils ont vu la saison 1 et ils nous ont accompagnés. Ils nous ont dit on aime le scénar, on aime ce que vous faites, on vous suit.
Que dit notre coach ?
Et vous faisiez quoi juste avant ? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez arrêté, qu'il y a une période où vous avez vécu quasi sans rémunération pour lancer ça. Et donc, qu'est-ce que vous avez coupé pour vous lancer là-dedans et combien de temps ça a duré ?
En fait, moi, j'ai toujours eu un boulot alimentaire en parallèle de mon travail d'auteur-réalisateur parce que je voulais faire principalement des films qui m'intéressaient. Donc, quand j'ai rencontré Sullivan, on était assistants d'éducation tous les deux. Et après, je suis devenu prof de cinéma, donc d'assistant d'éducation qui était mon job alimentaire. Prof de cinéma est devenu mon job alimentaire. Et c'est ça qui me permettait, en fait, de réaliser des films qui me plaisaient. Et cette période-là, c'était random qu'on faisait.
D'accord.
Voilà.
Elisabeth, je voudrais qu'on s'intéresse à Netflix, on en a parlé. Netflix qui s'intéresse aussi parfois aux web-séries.
Et justement, aujourd'hui, Netflix débarque avec la série Osmosis réalisée par Newen pour Netflix. C'est un projet made in France, 100%. C'est une adaptation justement de la web-série qui avait été diffusée en 2015 sur Arte Créative. Une série qui se passe à Paris, dans lequel les progrès de la technologie permettent de trouver l'âme sœur grâce à une nouvelle application. Cette application, c'est Osmosis.
On reste ensemble et on continue à parler séries françaises aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend, vous avez la parole, le hashtag Europe 1 sur Twitter. A tout de suite, c'est la France qui bouge.
Europe 1.
Les séries françaises au cœur de la France bouge. Aujourd'hui sur Europe 1, on retrouve Raphaël Duchemin.
Avec nous, Sébastien Charby qui produit Plus belle la vie. Benjamin Dupas qui est scénariste notamment de 10%. Rémi Noël qui est co-créateur de la web-série Random. Et notre coach évidemment, Sylvain Lambert avec Elisabeth Assayag qui m'accompagne dans cette émission. On va tout de suite prendre les questions, si vous le voulez bien, Anissa, ou les témoignages de nos auditeurs.
Alors, il y a Jean-Marc qui nous dit « En passant des séries françaises dans les salles d'attente des urgences, on rendrait l'attente moins pénible. » Voilà, c'est une suggestion de Jean-Marc, pourquoi
Encore
pas.
Encore un canal supplémentaire pour vous.
Hubert nous dit... voilà, Hippocrate, très bonne série, effectivement. Hubert nous dit « Ah, voilà un sujet qui va me faire regarder La Petite Maison dans la Prairie. » Alors, c'est pas une série française. Il dit « Hormis cette série-là, je suis fan de Star Trek et je déplore que la France ne produise pas comme les États-Unis des séries fantastiques de science-fiction. Ce n'est pas dans l'ADN des créateurs français de faire de la science-fiction, point d'interrogation.
Ah, alors, tiens, bonne question.
Il se trouve qu'en fait, il y a énormément de gens qui écrivent de la très bonne science-fiction en France. On a des très bons auteurs dans la région nantaise. On a notamment Pierre Bordage qui a écrit aussi pour le cinéma.
Je sens arriver un mais.
Ah non, c'est juste que pour l'avoir rencontré et avoir discuté avec lui à plusieurs reprises, il y a quelque chose d'un peu de l'ordre de la frilosité, alors que dans le fait de produire, alors que les plus grands succès du cinéma et de la série sont la science-fiction.
Sébastien, il y a une frilosité ou pas sur la science-fiction à la française ? On sait faire, on sait pas faire ?
Non, il n'y a pas une frilosité, il y a juste une ambition, mais Osmosis, c'est de l'anticipation, c'est pas de la science-fiction. Après, dans le fantastique, les genres sont très larges. Pour bien le faire, ça nécessite une expertise parfois technique, un temps, un investissement, des moyens qui peuvent poser question à l'échelle d'un marché qui est le marché français, qui est un peu plus petit que le marché américain. Mais je pense qu'on est en train de trouver des manières de le faire à notre manière.
Anissa.
Il y a des questions. Alors là, pour vous trois, celle-ci, Sébastien, Benjamin et Rémi, est-ce que certains d'entre vous développent des séries pour la 4K avec un son exceptionnel ?
Qui veut répondre ?
C'est Marc
qui se lance,
qui pose cette question.
Moi,
Sébastien, non, il ne veut pas répondre. Benjamin, non, manifestement.
On va faire un petit truc au micro avec les trois micros en même temps.
On peut, si vous voulez, oui, comme ça, ça...
C'est le mieux, j'ai pas
de... Vous n'avez pas de... non plus.
Nous, la saison 2 est tournée en 4K et le son est en 5 points.
Voilà.
C'est la web-série. C'est random, ouais.
Sauf que sur YouTube, il n'y a pas de 5 points. Mais voilà.
Bon, voilà, donc encore quelque chose à cogiter. Autre témoignage, autre question.
Mes séries françaises favorites sont Scènes de ménage, Engrenage, Mafiosa, 10% et Les Rois maudits. Et puis, on a un message, alors un peu moins sympa. Du magnifique.
Ce sont des choses qui arrivent.
Qui nous dit coucou, les séries françaises manquent cruellement de dialogues et d'acteurs cohérents.
Il les a toutes vues ?
Bah non, parce qu'il y en a quand même des très réussies,
oui,
des séries françaises.
On n'est pas tout à fait d'accord. Comment il s'appelle ?
Le Magnifique.
Le Magnifique, on n'est pas d'accord avec vous. Mais c'est pas grave, on a le droit d'avoir un débat. Est-ce que vous trouvez, vous, qu'il y a certaines séries qui ont pu parfois être ratées ? Est-ce qu'il y avait une grosse ambition et que finalement le produit fini, ai-je envie de dire, était un peu en deçà ? Qui a envie de répondre au Magnifique ?
C'est très délicat parce que les goûts dans la mise en scène, dans la direction d'acteur, c'est relatif à chacun. Enfin, il y a des spectateurs qui vont adorer certaines séries, que d'autres vont haïr. Donc, pour moi, c'est de la subjectivité.
Il faut que chacun puisse aller trouver ce qu'il a envie de trouver dans une série.
Oui, j'imagine. Après, des séries ratées, il y en a forcément, mais par rapport à l'intervention du Magnifique, je vois que ça, en fait.
Non, mais on a envie de lui dire d'écrire sa propre série. C'est effectivement très, très difficile de faire une série. Il faut savoir, évidemment, bien sûr qu'on rate. Et à l'intérieur même d'une série, même une série dont on est fier, comme 10%, il y a des épisodes où on se dit, celui-là, il a toujours été difficile, on a tout fait, et puis voilà. Et c'est pas une science exacte. C'est quelque chose qui nous réveille la nuit. Enfin, ça n'est en aucun cas une sorte de production industrielle absolument standardisée. Hein. Donc, il y a des aléas.
Puis pour faire écho à ce que dit Benjamin, il y a des séries qui ne sont pas françaises qui sont ratées. Je veux dire, on n'a pas l'apanage de ratées en France. Faut se décomplexer là-dessus. Il y a des séries virtuoses et des séquences virtuoses dans des séries françaises, dans des séries américaines aussi. Comme le disait Benjamin, c'est aussi aléatoire. Et donc, plus on tente, plus on a de chances de réussir. C'est ça qu'il faut se dire.
Que dit notre coach ?
Une question qui tarabuse beaucoup, c'est quand on crée une série, est-ce qu'il arrive que des fois on en pense la fin ? C'est-à-dire qu'on se dit, on écrit une série qui va s'arrêter à tel moment. Après, je peux comprendre que le public et l'audience, parce qu'on se dit qu'il faut trouver une solution, mais est-ce que c'est déjà arrivé ?
Pour moi, c'est une grosse différence. Je vais mouiller. Je dirais que non, parce que le principe même d'une série, c'est que c'est un moteur, un réacteur de complications, de dramaturgie qui n'est pas censé s'arrêter. Une série, par exemple, c'est pas Rise and Fall. Les gens qui arrivent du cinéma souvent disent, j'ai une idée, il y a un personnage, et là, ça grandit, il devient une carrière incroyable, puis soudain, ça se casse la gueule, et puis là, il réfléchit à son destin. Ça, c'est un long métrage, c'est pas une série. Une série, c'est pas fait pour s'arrêter.
Mais quand on vous annonce la fin, du coup, vous êtes frustré, non ? En tant qu'auteur de
série. Non, comme on est épuisé.
C'est le moment de prendre des vacances, c'est ça, Benjamin. Sébastien, même constat pour vous ?
Moi, c'est encore plus vrai dans mon quotidien. Je pense qu'il y a plusieurs objets. Il y a les mini-séries qui sont un espèce d'objet hybride entre des films que certains n'estimaient pas assez longs et qui permettent d'avoir un début et une fin, mais ça ne répond pas à ce qu'on cherche dans la logique de série. La série, ce n'est pas de la production en série, c'est plutôt une logique d'une histoire qui va s'installer avec comme moteur principal la frustration. Mais c'est important de jouer avec la frustration des gens, parce que c'est là qu'on repousse les limites. Nous, on ne connaît jamais la fin d'une histoire quand on le lance. C'est là qu'on met les gens en tension, qu'il y a une forme de création. Alors après, c'est un exercice particulier qu'est le feuilleton. Mais je pense que dans toute création, il y a cette mise en danger de ne pas se dire « on va atterrir là ».
Question pour tous les trois. Vous êtes déjà en train de penser à la suite, c'est-à-dire... aux saisons qui viennent pour vous, Rémi, la 3 et la 4, elles sont en cours d'écriture. Aux nouveaux projets pour vous, Sébastien et Benjamin, c'est quelque chose qui... On est toujours en train de regarder devant.
En tout cas, pour moi, oui. Nous, on a écrit les saisons 3 et 4. Et pour le coup, nous, on arrête en saison 4. Hein, on a décidé de trouver une fin, donc voilà. Mais on continue d'écrire individuellement ou même en équipe avec Sullivan. On se lance des idées, on rebondit, on crée des projets. Différentes formes, du plus ou moins longues, ça devient une espèce de maladie à un moment donné, en fait, d'écrire. On a envie de trouver des retournements de situation, des situations qu'on a envie de tordre pour surprendre un spectateur, pour qui se sente investi, qu'il ait de l'empathie pour nos personnages. Voilà, c'est...
Même chose pour vous, Benjamin, Sébastien.
L'année dernière, j'ai tenté une pause. C'était au mois de mai et pour la première fois depuis 12 ans, j'avais pas de scénario en attente. Enfin, j'avais pas de texte à écrire. Donc j'ai tenté une pause au bout de 3 semaines, j'étais très malheureux. Je me suis engagé avec Netflix, qui est l'inverse absolu, c'est-à-dire un rythme ultra effréné et avec beaucoup d'adrénaline.
Sébastien, pour vous, c'est du quotidien, donc c'est encore autre chose.
C'est marrant parce que sur ce qu'on me disait, on est parti de la maladie vers l'addiction. Après, moi, mon auteur principal, qui s'appelle Pierre Monjanet, qui supervise l'écriture chez nous, il a cette définition plus sportive, qui est c'est un muscle, la création. Plus on le travaille, plus ça vient. Et à un moment, ce muscle-là, il consomme de l'énergie, mais il en donne aussi. Donc de fait, il y a un côté, la pierre roule et puis elle ne s'arrête pas, quoi.
Je n'ai pas de générique de fin, mais je vais vous remercier d'être venu parler séries françaises avec nous aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et vous restez avec nous, bien sûr, dans 2 minutes. Une entreprise qui existe depuis 2011, qui s'est donnée pour mission de travailler à la fin de vie du plastique, c'est Carbios et c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
La France bouge, se poursuit jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, et avec une entreprise qui va bien.
Eh oui, cette entreprise, c'est Carbios. Bonjour Jean-Claude Lumaret.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé votre société en 2011. Racontez-moi, comment vous vient l'idée de penser à la fin de vie du plastique? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, je vais vous dire une confidence. Elle vient tout simplement du fait que, en tant que Marseillais, on est sur un bateau, on a un bateau et on est quand même très vigilant par rapport à l'environnement et à la mer. Et on voit passer un sac plastique auprès de votre bateau et vous dites, c'est plus possible, il faut penser autrement à la fin de vie des plastiques.
Alors, que faites-vous avec ces plastiques, justement? Vous leur donnez une nouvelle vie?
Alors, on fait 2 choses. Effectivement, d'un côté, ce qu'on appelle le bio-recyclage, c'est de redonner une vie identique à un matériau plastique qui sera entre-temps devenu un déchet. Et puis, l'autre développement que l'on a fait, c'est de faire des nouveaux plastiques contenant ces fameux catalyseurs biologiques, ces enzymes. On introduit donc dans le plastique ces fameuses enzymes. On va fabriquer un sac, par exemple. C'est souvent des produits, ces sacs à usage unique. Donc vous allez l'utiliser et puis à la fin de cette utilisation, vous le mettrez soit dans votre compost, plus malheureusement dans la nature, et il s'autodégradera, il générera 0 déchet.
Dites-moi, votre premier travail, je crois, c'était de fabriquer justement des sacs en amidon. C'est ça aussi qui peut-être vous a donné l'inspiration?
Alors peut-être qu'historiquement, oui, au long de ma carrière, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois les plastiques. Et notamment au tout début de ma vie dans une société agroalimentaire, on m'a demandé de faire des sacs plastiques en amidon.
Mais il y a plastique et plastique. On peut quand on dit plastique, ça recouvre finalement beaucoup de choses.
Ça recouvre énormément de choses. Donc l'ambition de Carbio, c'est un jour de pouvoir traiter plus largement que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, beaucoup plus de plastique ou du moins beaucoup plus de polymères. Mais évidemment, quand on est une start-up, il faut commencer, je dirais, progressivement. Et on a commencé par 2 polymères. Un qui s'appelle l'acide polylactique et qui est surtout utilisé dans le domaine de la sacherie, sachet à usage unique.
C'est-à-dire que quand je vais, par exemple, au supermarché pour mettre mes fruits ou mes légumes dans un sac plastique, c'est celui-là que j'ai?
L'année prochaine, ça sera une réalité. Tout simplement, pourquoi? Parce que toute la technologie est développée, tout est préparé, mais simplement on attend les agréments pour le food contact, puisqu'évidemment on ne voudrait pas...
Pour pouvoir le mettre en contact avec les aliments.
Exactement.
Et alors pour les bouteilles, là pour le coup c'est un problème beaucoup plus complexe, hein, vous avez commencé à l'expliquer, plastique polymère, il faut nettoyer, si j'ai tout bien compris, le polymère pour pouvoir séparer ce qui était biodégradable et ce qui ne l'était pas. C'est ça en fait que vous avez, si je schématise, inventé.
Mais si on résume, si vous voulez... Aujourd'hui, si on prend le domaine des bouteilles, qui est quand même un des domaines les plus répandus dans l'usage de ce fameux PET, aujourd'hui, vous avez des bouteilles transparentes, colorées, opaques, etc. Et les technologies qui existent à date sont, je dirais, malheureusement contraintes par la coloration, l'opacité ou autre de ces fameuses bouteilles. Et donc, ou les salissures, je dirais, qu'elles contiennent. Et donc, il faut les nettoyer, il faut les séparer, il faut les trier, etc., pour pouvoir essayer d'éventuellement, de façon mécanique, de recycler. Et puis, le recyclage mécanique, quand on dit mécanique, c'est qu'on imagine broyer. Et si vous broyez, vous vous dites, normalement, ça va un peu abîmer la matière. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas réutiliser ce broyat à plus de 25% pour refaire une bouteille. La technologie de Carbios, basée sur ces fameuses enzymes, c'est qu'une enzyme, elle est spécifique du polymère. Donc, quel que soit son environnement, opaque, coloré, etc., l'enzyme, elle va aller chercher le polymère. Et une fois qu'elle est au contact de ce polymère, on va imaginer que le polymère, c'est un collier de perles. Ben, l'enzyme, elle va venir couper le fil entre deux perles. Ces deux perles, ce sont des monomères. C'est les monomères que la chimie avait faites. Ben, nous, on va les récupérer, on va les purifier, on va refaire un collier de perles. Et si j'ai refait un collier de perles, je refais une bouteille à 100%.
Que dit notre coach de cette initiative et de cette inventivité de Carbios?
Oui, vous parliez notamment pour la partie sacherie. Quelle est la durée de vie, enfin le temps de biodégradabilité du produit? Une fois, vous l'avez dit, quand on l'a utilisé une fois, après il va se... S'il part dans la nature, combien de temps il va mettre à disparaître?
Alors, d'abord, il y a des normes. D'accord? Donc, on doit respecter pour la biodégradabilité les normes, etc. Bon, ça, c'est tout à fait réglementé. Après, il y a surtout l'application, l'utilisation. Si on parle de sacs fruits et légumes, par exemple, oui, bon exemple. Vraisemblablement, entre le moment où vous allez prendre vos légumes ou vos fruits dans un supermarché, le moment où vous allez arriver et puis, récupérer ce déchet, ce sac, il ne va pas se passer des semaines. Et donc, en général, on va régler l'activité de notre enzyme, le dosage de l'enzyme, de telle façon à ce que dans le mois, par exemple, ça disparaisse. Si vous êtes dans le domaine du paillage agricole, c'est-à-dire, vous savez, ces grandes bandes blanches qu'on voit en ce moment, quand on voit sur les terres agricoles, ben là, par exemple, si vous avez des semences de maïs, il va falloir que pendant 3 mois, le matériau soit effectif. Mais à la fin, quand la plante a poussé, il va falloir que ça disparaisse et que ça génère zéro déchet. Donc, on va régler différemment et l'activité de l'enzyme, son dosage, son accessibilité à l'environnement pour qu'elle opère l'hydrolyse.
Vous étiez seul, Jean-Claude Lumaret, au départ dans cette aventure. Vous êtes combien aujourd'hui?
Alors, on est un peu plus de 20 maintenant du côté de Carbios. C'est la filiale qu'on a créée pour ces fameux sacs. Ils sont également une vingtaine, donc ça fait 45 personnes à peu près.
Et c'est pour ça que c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Je vous en prie, merci
sur
beaucoup.
Europe 1.
Il est 13h47.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Désengorger les services d'urgence, c'est la mission d'une start-up du Gard. Elle a inventé une solution via une appli, ça s'appelle Urgence Chrono. A tout de suite.
Vous écoutez le meilleur de la France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et Elisabeth Azayag. Ne pas saturer les urgences, trouver le bon hôpital, c'est l'idée d'une start-up, Raphaël.
Oui, désengorger les urgences pour laisser de la place aux urgences vitales, c'est le souhait de tous les médecins évidemment, mais cela reste compliqué à mettre en place. Urgence Chrono, c'est la solution, Elisabeth, et c'est une solution digitale.
Oui, parce que d'après un rapport de la Cour des comptes, 20% des passages aux urgences pourraient être évités. Donc, pour ne pas aller pour rien aux urgences et pour désengorger les urgences, l'enjeu c'est de pouvoir répondre au patient rapidement et lui trouver une réponse adaptée à son problème et ne pas attendre 3 heures, 4 heures ou 5 heures aux urgences. Cette solution elle passe donc par le digital, elle a été créée par un médecin et par une infirmière urgentiste. Cette solution Urgence Chrono, elle permet d'atténuer le temps d'attente aux urgences, de mieux vivre ce temps parce qu'elle informe les patients en temps réel sur le temps d'attente avant de voir un médecin. C'est à Montpellier qu'Urgence Chrono a été testée et elle est prête à être déployée partout en France. Pour l'instant, elle est à Montpellier.
Bonjour Céline Jardy-Triola.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des fondatrices de ce système Urgence Chrono. Vous êtes médecin. C'est donc partie d'un vécu, je suppose, cette idée?
Oui, tout à fait, avec mon associé Magali, qui est infirmière, avec qui j'ai travaillé aux urgences. C'est vraiment sur notre expérience professionnelle de voir des patients qui arrivaient notamment le soir aux urgences pour des problèmes de médecine générale, typiquement de la pédiatrie, la fièvre, l'otite, qu'on a eu l'idée de faire ce site qui va pouvoir informer les patients pour qu'ils puissent s'orienter vers la bonne structure.
Alors pour l'instant, c'est un site internet, c'est sur Urgence Chrono. Alors concrètement, ça marche comment? Ça sert à quoi? Si par exemple, moi, je dois aller aux urgences, en quoi Urgence Chrono va m'aider?
Donc c'est un site, mais sur un smartphone par exemple, ça va pouvoir vous géolocaliser. Mmh. Et puis vous allez pouvoir choisir si vous voulez voir un médecin généraliste, c'est-à-dire un médecin de garde, SOS médecin, maison médicale de garde, ou un service d'urgence. Donc déjà, vous allez pouvoir faire le distinguo, premièrement. Et notamment, les médecins généralistes de garde sont parfois compliqués à trouver.
Et on les trouve sur Urgence Chrono?
Alors en fait, on va répertorier toutes les maisons médicales de garde. Donc il y aura accès téléphonique,
dans notre
guidage GPS.
Géolocalisable.
Voilà.
Okay.
Mais pour les endroits, il y a quand même beaucoup d'endroits en France, notamment en ruralité, où il n'y a pas de maison médicale de garde identifiée. Et les gens pensent pense qu'il n'y a pas de médecin de garde. Alors qu'il y a quasiment toujours, au moins jusqu'à minuit, un médecin de garde sur le territoire. Alors peut-être pas dans votre village, mais dans le village d'à côté. Et donc là, sur Urgence Chrono, au moins vous trouverez le numéro de téléphone pour appeler, pour être mis en relation avec ce médecin et éviter ainsi d'aller consulter par défaut aux urgences pensant qu'il n'y a personne en fait.
Ça c'est pour trouver un médecin rapidement. En revanche, quand on arrive au service des urgences, c'est contributif, c'est-à-dire si moi je vais aux urgences, je peux indiquer sur Urgence Chrono que ça fait 1h30 que j'attends, c'est
exactement,
ça l'idée ?
Exactement. Pour les services d'urgence, on s'est dit que donc déjà d'informer sur tous les services d'urgence qui existent déjà, c'est important pour les patients parce qu'on s'est rendu compte que souvent ils connaissaient très mal l'offre de soins, notamment à Montpellier, on s'est rendu compte que les gens connaissaient tous le CHU, ils connaissaient une clinique ou deux, mais ils ne connaissaient pas l'ensemble des soins. Et donc en visitant toutes ces cliniques, on s'est rendu compte que le lundi matin, il y avait certaines cliniques qui étaient vides aux urgences, alors que le lundi matin, classiquement, ça déborde. Donc on s'est dit, c'est quand même un petit peu dommage de ne pas informer les gens sur tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'on a tout répertorié. Et en plus, donc les patients ou les soignants ont la possibilité d'indiquer ce temps d'attente pour que, quand il y a une solution adaptée, quand il y a plusieurs solutions adaptées, d'aller dans le service le plus disponible à l'instant T. Voilà.
Sylvain ?
C'est gratuit ?
Oui, le site est gratuit. Dans cette version-là...
Et vous gagnez votre vie comment avec ?
Alors, on va développer d'autres services, bien sûr, hein, pour que la solution soit pérenne. Là, on a enlevé de fonds et on va développer notamment une application avec des services plus aboutis que les gens pourront payer en abonnement ou notamment via les complémentaires santé. Mais ce service tel qu'il est là, tel qu'il est aujourd'hui, a vocation à rester gratuit pour qu'il soit utile pour le plus grand nombre.
Pour l'instant, Montpellier ou partout ?
Alors, le site est utilisable dans la France entière, c'est-à-dire que partout, vous allez pouvoir
voir un médecin disponible.
Voilà, quels sont les services d'urgence et les maisons médicales de garde. Et la semaine dernière, donc, on a lancé sur Montpellier un travail en collaboration avec les cliniques pour que ce soit les cliniques eux-mêmes qui indiquent ce temps d'attente de manière
formidable.
Complètement automatisée.
Europe 1. C'était le meilleur de la France Bouge avec Raphaël Duchemin. Demain à 13h, gros plan sur le running. Quand il s'agit de courir, les Français ont des idées. Retour aussi sur une entreprise qui va bien. Les automobilistes la connaissent forcément, c'est .s. Et puis si vous avez un projet de construction et que vous hésitez, Raphaël a une solution archi bien pour trouver l'architecte qui vous convient.